Quatrième narration, extraite du journal d'Ezra Jennings, 1849, 15 juin. À travers quelques interruptions dues à des clients et aux accès de mes souffrances, j'ai pu néanmoins finir ma lettre à Miss Verinda pour le courrier de ce soir. Je ne suis pas parvenu à la rendre aussi courte que je l'eusse désirée, mais je crois qu'elle a au moins le mérite de la clarté. Je laisse Miss Verinda entièrement maîtresse de ses décisions. Si elle consente à se prêter à notre tentative, ce sera de son plein gré et point à titre de faveur envers M. Blake ou envers moi. 16 juin. Je me suis levé tard après une nuit affreuse, résultat de l'opium dont j'ai abusé hier et qui se venge par une série de rêves effroyables. Pendant un certain temps, je me voyais précipité dans l'espace, mêlé aux fantômes de mes amis et de mes ennemis réunis. Le visage bien-aimé que je ne contemplerai plus jamais apparaissait à mon chevet, brillant d'un éclat phosphorescent à travers l'obscurité, mais défiguré par une expression fixe et grimaçante. Ce matin, à l'heure habituelle, j'ai ressenti une légère atteinte de mes anciennes souffrances. Je me suis presque réjoui de leur retour parce qu'il a mis fin à ces hallucinations. Par suite de ma mauvaise nuit, je ne me suis rendu chez M. Franklin Blake qu'assez tard dans la matinée. Je l'ai trouvé étendu sur un canapé. Il trempait un biscuit dans de l'eau de seltz mêlée d'eau-de-vie. « Je débute aussi bien que vous pouvez le désirer, » m'a-t-il dit. Une nuit agitée, détestable, avec absence complète d'appétit ce matin. C'est exactement ce qui m'arriva l'année dernière lorsque je cessais de fumer. Au surplus, plus tôt mes nerfs seront disposés à l'effet du laudanum, mieux ce sera. « Vous le prendrez au premier jour, » lui ai-je répondu. « Mais d'ici là, le soin de votre santé doit être notre principale préoccupation, car si nous vous affaiblissions trop, nous manquerions notre but. Il faut que vous ayez faim pour dîner. Par conséquent, montez à cheval ou promenez-vous ce matin pour respirer l'air frais. » Je monterai à cheval si je puis trouver une monture ici. J'ai écrit hier à M. Bruff. Avez-vous écrit à Miss Verinda? Oui, la lettre est partie. Très bien, nous aurons sans doute demain quelques nouvelles intéressantes à nous communiquer. Ne vous en allez pas, j'ai encore un mot à vous dire. Vous paraissiez croire hier que notre expérience ne serait pas favorablement accueillie par mes amis. Vous étiez dans le vrai. Gabriel Betteridge, que je considère comme un ami, vous eût amusé si vous aviez entendu ses protestations. Vous avez fait bien des folies dans votre vie, monsieur Franklin, mais celles-ci les dépassent toutes. Voilà l'opinion de Betteridge. Faites la part de ses préjugés si vous venez à le rencontrer. Après avoir quitté M. Blake pour entreprendre ma tournée des malades, je me suis senti meilleur et moins malheureux depuis notre entrevue. Quel est donc le secret attrait qui me porte vers lui? Est-ce seulement qu'habitué à rencontrer partout la méfiance et le dédain, je lui sais gré de ses manières franches et affectueuses, de sa cordialité qui contraste si étrangement avec la dureté des autres, ou bien y a-t-il réellement en lui ce quelque chose qui répond au besoin infini que j'avais d'un peu de sympathie, à ce désir d'épanchement, d'abandon du cœur qui a survécu à la solitude, aux persécutions de tant d'années, et qui semble augmenter d'intensité à mesure que le temps approche où je ne souffrirai ni ne regretterai plus. Quelles inutiles questions je m'adresse là. M. Blake a mis un intérêt dans ma vie, jouissons-en sans scruter l'origine de cette sympathie. 17 juin. Ce matin, au déjeuner, M. Candy m'a prévenu qu'il s'absentait pour aller passer 15 jours chez un ami dans un des comtés du Sud. Le pauvre homme m'a accablé d'autant de recommandations pour ses malades que si sa clientèle était encore aussi étendue qu'avant sa maladie. Elle est pourtant bien réduite actuellement. D'autres docteurs ont pendant ce temps remplacé M. Candé, et ceux-là seuls qui ne peuvent faire autrement m'emploient, moi. Son absence tombe fort à propos. Il eût été vexé que je ne le tinsse pas au courant de l'expérience que je vais tenter sur M. Blake, et si je l'avais mis dans ma confidence, je ne sais quels inconvénients ne s'en fussent pas suivis. Tout est donc pour le mieux ainsi, sans aucun doute. La poste m'apporte la réponse de Miss Verinda. Sa lettre est charmante et me donne une haute opinion d'elle. Elle n'essaie pas de déguiser l'intérêt qu'elle prend à notre tentative. Elle me dit de la façon la plus aimable que ma lettre justifie entièrement M. Blake à ses yeux, et que pour elle, sa conviction est faite sans qu'il soit besoin de mettre mon affirmation à l'épreuve. Elle se reproche même, bien à tort, la pauvre enfant, de n'avoir pas su deviner plus tôt le nœud de l'énigme. Il ressort clairement de sa lettre que son ardeur à rendre justice à un innocent procède d'un intérêt plus vif que celui qu'on attache à faire amende honorable d'un tort involontaire. Évidemment, elle n'a jamais cessé de l'aimer, nonobstant la rupture survenue entre eux. Dans plus d'un passage de sa lettre, la joie de le savoir digne de son amour éclate innocemment, malgré les conventions du langage et la retenue d'une correspondance adressée à un étranger. « N'est-il pas singulier, me disais-je, en lisant cette délicieuse lettre, que le sort m'ait choisi de préférence à tout autre pour servir de lien entre ces deux jeunes cœurs ? Mon bonheur personnel a été foulé aux pieds. L'amour de toute ma vie m'a été arraché. Vivrai-je assez pour voir quelqu'un en possession d'un bonheur qu'il me devra, pour assister à la réconciliation de deux amants que j'aurais rapprochés ? Ô mort miséricordieuse, laisse-moi jouir de ce spectacle avant que tes bras m'étreignent, avant que la voix murmure à mon oreille le mot de l'éternel repos. » Miss Verinda me demande deux choses. Elle me prie d'abord de ne point montrer sa lettre à M. Franklin Blake. Je suis autorisé à lui dire que Miss Verinda met très volontiers sa maison à notre disposition, mais je ne dois rien ajouter de plus. Jusque-là, il est aisé de déférer à son désir. Mais la seconde requête m'embarrasse sérieusement. Non contente d'écrire à Betteridge pour lui ordonner de m'obéir en tout point, Miss Verinda me demande la permission de venir arranger elle-même son appartement particulier. Elle n'attend qu'un mot de moi pour se rendre dans le Yorkshire et assister comme témoin à la seconde épreuve de l'opium. Cette demande dissimule un motif secret, mais que je crois facile à pénétrer. Ce qu'elle m'a défendu de communiquer à M. Franklin Blake, elle désire sans doute le lui dire elle-même de vive voix avant qu'il subisse l'épreuve destinée à le réhabiliter devant le public. Je comprends et j'admire la généreuse ardeur qui porte Miss Verinda à absoudre son cousin sans attendre que l'innocence de celui-ci soit prouvée. Elle entend réparer ainsi l'injure que ses soupçons lui ont faite. Mais ce projet ne peut être exécuté. L'émotion d'une pareille entrevue, venant raviver d'anciens sentiments et éveiller de nouvelles espérances, jetterait dans l'âme de M. Blake le trouble le plus nuisible au succès de notre expérience. Il est déjà assez malaisé de réunir, après un an d'intervalle, les conditions d'existence qui l'entouraient à l'époque du vol. Et s'il entrait dans un nouvel ordre de sensations morales, l'échec serait complet. Je me rends bien compte de la gravité de tous ces inconvénients, et pourtant il m'en coûte de la désappointer. Je vais faire de mon mieux avant l'heure de la poste pour trouver un moyen qui me permette de lui dire oui sans contrarier en rien le succès de l'épreuve que j'ai proposée moi-même à M. Blake. 2 heures. Je rentre de ma tournée médicale après avoir fait ma visite à l'hôtel. La nuit de M. Blake a été semblable à la précédente. Il n'a pu prendre que quelques heures de sommeil interrompu, rien de plus. Mais il en souffre moins aujourd'hui, ayant dormi après son dîner d'hier. Ce repos est la conséquence de sa promenade. Je crains donc d'être forcé de diminuer l'exercice au grand air. Il ne doit pas se porter trop bien, et il ne faut pas non plus l'affaiblir outre mesure. C'est une affaire où, comme disent nos marins, il s'agit de louvoyer. M. Blake n'a rien reçu de M. Bluff. Il attendait avec une anxiété visible des nouvelles de Miss Verinda. Je lui ai dit exactement ce qu'on m'a autorisé à lui transmettre. Je n'ai pas eu à chercher d'excuses pour ne point lui montrer la lettre. Le pauvre garçon m'a répondu avec assez d'amertume qu'il comprenait la délicatesse qui me dictait ma réserve. Elle consent naturellement, mais comme une personne qui agit par un sentiment de justice et de convenance. Néanmoins, a-t-il ajouté, elle garde son opinion sur moi et ne se rendra qu'à l'évidence des faits. J'ai été grandement tenté de lui dire qu'il se trompait à son tour sur elle, comme elle s'était trompée sur lui. Réflexion faite, je n'ai rien voulu enlever à Miss Verinda de la joie qu'elle aurait à le surprendre et à se réconcilier avec lui. J'ai dû abréger beaucoup ma visite. Pour m'épargner les affreuses visions de la nuit dernière, j'avais renoncé à ma dose d'opium. L'inévitable conséquence a été un retour terrible du mal qui me dévore. J'ai senti l'approche de la crise et j'ai quitté brusquement M. Blake afin de ne pas lui donner le pénible spectacle de mes souffrances. L'attaque n'a duré qu'un quart d'heure et mes forces m'ont permis de reprendre mes occupations. 5 heures. J'ai répondu à Miss Ferinda. La combinaison que je lui propose concilie tout si elle y consent. Après lui avoir exposé le danger d'une rencontre entre elle et M. Blake, je lui conseille d'arriver secrètement à sa maison de campagne en s'arrangeant de façon à nous rejoindre le soir même de notre expérience. Elle peut prendre le train de l'après-midi à Londres et être ici pour 9 heures. Je ferai en sorte que M. Blake ne quitte plus sa chambre à coucher à partir de ce moment et rien ne s'opposera alors à ce que Miss Verinda occupe ses appartements particuliers jusqu'à l'heure de l'absorption du laudanum. Elle pourra suivre les phases de l'expérience avec nous. Le lendemain matin, si elle le désire, elle montrera à M. Blake la lettre qu'elle m'a écrite, et lui donnera ainsi la joie de savoir qu'il était absous de son cœur avant de subir l'épreuve publique de son innocence. Je viens de lui écrire dans ce sens. C'est tout ce que je puis faire aujourd'hui. Demain, il me faudra m'entendre avec M. Betteridge au sujet des arrangements à faire dans la maison. 18 juin. Aujourd'hui encore, je n'ai pu aller chez M. Blake que fort tard. Dès l'aurore, mes atroces douleurs m'ont repris pour me laisser ensuite dans un état d'épuisement complet. Je serai obligé, je le prévois, de recourir pour la 100e fois au soulagement si chèrement payé que me procure l'opium. Si je n'avais à songer qu'à moi, je préférerais encore la souffrance à ces rêves effrayants. Mais la souffrance physique m'anéantit. Si je me laisse envahir par elle, je deviendrai inutile à M. Blake au moment même où je puis lui être le plus nécessaire. Il était près d'une heure lorsque je suis arrivé à l'hôtel. Tout malade que j'étais, cette visite n'a pas laissé que de m'amuser beaucoup grâce à la présence de Gabriel Betteridge. Il était dans la pièce lorsque j'y suis entré. Pendant que je faisais quelques questions à M. Blake, il s'est retiré près de la fenêtre. M. Blake avait mal dormi et se sentait plus éprouvé que précédemment par suite du manque de sommeil. Je lui ai demandé s'il avait reçu des nouvelles de M. Bluff. Une lettre lui était parvenue le matin même. M. Bluff blâmait dans les termes les plus énergiques la marche adoptée à mon instigation par son ami et client. L'entreprise était néfaste puisqu'elle éveillait des espérances irréalisables. Son esprit se refusait absolument à y voir autre chose qu'un tour digne des prestidigitateurs habiles, des somnambules et autres charlatans de ce genre. Cela ne servirait qu'à bouleverser la maison de Miss Verinda d'abord et elle-même ensuite. Il avait soumis toute l'affaire, sans nommer personne, à l'appréciation d'un médecin distingué. L'éminent docteur avait souri, secoué la tête et avait gardé le silence. M. Bluff croyait donc avoir lieu de protester, et il s'en tiendrait là. Restait la question du diamant. L'avoué donnait-il une preuve quelconque que le joyau fût à Londres? Non, M. Bluff avait refusé d'accepter la discussion à ce sujet. Il se déclarait sûr pour son compte que la pierre de lune avait été mise en gage chez M. Luca. Son éminent ami M. Murthwaite, à qui personne ne pouvait contester une profonde connaissance du caractère hindou, en était sûr également. Pour ces motifs, et vu le nombre de ses occupations, il s'excusait de ne point discuter une question oiseuse. Le temps montrerait qui avait raison, et M. Bluff s'en remettait au temps. Au fond de toutes ces objections, une chose était claire à mes yeux. M. Bluff se défiait de moi. Il m'était d'autant plus facile de m'en convaincre que M. Blake avait eu la précaution de me résumer la lettre au lieu de me la lire. J'avais prévu ce résultat. Aussi n'en ai-je été ni mortifié ni surpris. J'ai demandé à M. Blake si l'opposition de son ami ne l'avait pas ébranlé. Il m'a répondu que jamais il ne s'était senti plus décidé à poursuivre. Dès lors, je n'avais plus à m'occuper de M. Bluff et ne m'en suis plus occupé. La conversation s'était arrêtée entre nous. Gabriel Betteridge a quitté alors l'embrasure de la fenêtre. « Pourriez-vous m'accorder quelques moments d'attention, monsieur » m'a-t-il dit. « Tout à votre service, » ai-je répondu. Betteridge a pris une chaise et s'est assis à la table. Il nous a produit un vaste portefeuille en cuir de forme antique avec un crayon assorti. Ayant mis ses lunettes, il a ouvert son agenda à une page blanche et s'est adressé de nouveau à moi. « J'ai vécu, » dit Betteridge en me regardant sévèrement, « près de 50 ans au service de feu Milady. Avant cela, j'étais chez le vieux Lord, son père. Je suis âgé de plus de 70 ans, peu importe le chiffre exact, et je passe pour avoir au moins autant d'expérience et de jugement que beaucoup d'autres. Eh bien, comment toute cette affaire va-t-elle finir ?»« Elle finit, Monsieur Ezra Jennings, par une opération de sorcellerie tentée sur la personne de Monsieur Franklin Blake par un docteur en second, armé d'une bouteille de laudanum. Et, sur ma foi, on me destine dans ma vieillesse à être le compère d'un sorcier. » Monsieur Blake est parti d'un éclat de rire. J'ai essayé de placer un mot, mais Betteridge a élevé la main, faisant signe qu'il n'avait pas fini de parler. « Pas un mot, Monsieur Jennings, » a-t-il dit. « Je ne veux pas entendre un seul mot de votre part, monsieur. J'ai des principes, grâce à Dieu. Si on m'envoie un ordre, comme je pourrais en recevoir de Bedlam, je ne m'en inquiète pas. Tant qu'il émanera du maître ou de la maîtresse que je sers, j'y obéirai. Mais je puis conserver mon opinion, qui est aussi, souvenez-vous-en, celle de M. Bluff, du fameux M. Bluff, a insisté Betteridge, accentuant le nom avec solennité et m'adressant un regard plein de reproches. Enfin, je laisse de côté mon opinion, quoiqu'elle soit corroborée par une telle autorité, puisque ma jeune maîtresse dit « Faites cela, je le fais ». Et me voici avec mon agenda et un crayon tout à votre disposition. Le crayon, par exemple, est mal taillé, mais lorsque les chrétiens perdent tout sens commun, on ne peut reprocher à un crayon d'être plus ou moins aiguisé. Donnez-moi vos ordres, monsieur Jennings. Je suis prêt à les inscrire, mais je ne veux pas avoir la responsabilité de l'épaisseur d'un cheveu en plus ou en moins. Je suis un automate, monsieur, un automate, rien de plus, a répété Betteridge, qui trouvait grand plaisir à se définir ainsi lui-même. « Je regrette beaucoup, ai-je répondu, que mes vues ne soient point agréées de vous. »« Ne me mêlez pas à ces jongleries, » a interrompu Betteridge. « Ce n'est pas une affaire d'agrément pour moi, mais uniquement d'obéissance. J'attends vos ordres, monsieur, j'attends vos ordres. » Monsieur Blake m'a fait signe de le prendre au mot. J'ai donc redonné mes ordres aussi sérieusement et aussi simplement que je l'ai pu. Je désire, ai-je dit, que certaines parties de la maison soient rouvertes et remeublées exactement comme elles l'étaient il y a un an. Là-dessus, Betteridge a donné à son crayon un petit coup de langue en guise de préparation. Puis, majestueusement, « Nommez les parties de la maison que vous entendez remeubler, monsieur Jennings. » Premièrement, le hall conduisant à l'escalier principal. « Premièrement, le hall, » a écrit Betteridge. « Impossible, monsieur, pour commencer, de remettre cette partie de la maison dans le même état où elle était l'année dernière. Et pourquoi cela ? Parce qu'il s'y trouvait une tenture rembourrée. Lorsque la maison a été fermée, on ôta la tenture, et celle-ci, qui était déjà mûre, craqua. Nous accepterons donc alors la tenture. » Betteridge note l'exception. Remeubler le hall, en excepter une tenture usée. Veuillez continuer, monsieur Jennings. Remettre le tapis sur l'escalier comme précédemment. Je regrette de vous désappointer de nouveau, monsieur, mais cela ne se peut. Pourquoi ? Parce que l'homme qui a posé ce tapis est mort et qu'il n'existe pas en Angleterre un autre ouvrier capable comme lui de joindre un raccord de tapis. Très bien. Nous essaierons alors d'un autre tapissier approchant le plus possible du talent du défunt. Ici, autre note de Betteridge, autres instructions de ma part. Le boudoir de Miss Verinda a réarrangé absolument comme il était disposé l'année dernière. De même le corridor conduisant de ce petit salon au premier palier. Également le second corridor allant du second palier aux chambres à coucher. Idem la chambre à coucher occupée par M. Blake l'année dernière. Le crayon de Betteridge suivait consciencieusement. « Allez, monsieur, » disait-il avec une gravité sardonique, « Il reste encore de quoi écrire beaucoup de choses avec cette pointe émoussée. Je lui ai répondu que je n'avais plus rien à indiquer. « En ce cas, monsieur, m'a dit Petrich, j'ai pour mon compte une ou deux observations à vous soumettre. » Il a ouvert son carnet à une autre feuille et a donné un nouveau coup de langue à l'inépuisable crayon. « Je désire savoir si je puis ou non me laver les mains. » « Sans nul doute, a répondu M. Blake, je vais sonner le domestique. De certaines responsabilités, a continué imperturbablement Betteridge, décidé à ignorer la présence de toute autre personne que lui et moi. Je commence par le boudoir. Lorsque nous enlevâmes le tapis, M. Jennings, j'y trouvai une foule incroyable d'épingles. Dois-je répondre de la mise en place des épingles ? Certainement non. Betteridge a pris note sur l'heure même de la concession. Quant au premier corridor, lorsque nous enlevâmes les ornements qui le décoraient, nous ôtâmes la statuette d'un enfant nu, portée à l'inventaire sous l'appellation profane de Cupidon, dieu de l'amour. Il avait alors ses deux ailes intactes. Pendant un instant où je le perdis de vue, il en disparut une. Dois-je répondre de l'aile qui manque au Cupidon ? Nouvelle concession de ma part, nouvelle note de Betteridge. J'aborde le second corridor, a-t-il continué. Il n'avait l'année passée aucune autre décoration que celle des portes de chaque chambre s'ouvrant sur ce passage. Et pour celle-ci, je puis affirmer sous serment qu'elles y sont toutes. Ma conscience est donc en repos, je l'admets, quant à cette partie de la maison. Mais si la chambre de M. Franklin doit être remise dans l'état de l'année passée, je demande qui sera chargé de lui rendre l'aspect de désordre extraordinaire qu'elle présentait, bien qu'on la rangeât 10 fois par jour. Les pantalons étaient jetés d'un côté, les serviettes d'un autre, et des romans français traînaient partout. Je le répète, qui aura la responsabilité de rendre à cette chambre l'apparence de désordre qui lui était habituelle ? Monsieur Franklin ou moi ? Monsieur Blake a déclaré qu'il en acceptait volontiers l'entière responsabilité. Betteridge a refusé obstinément la solution ainsi proposée avant d'avoir obtenu préalablement mon assentiment. J'ai adhéré promptement à la proposition, et Betteridge a fait une nouvelle petite note sur son carnet. À partir de demain, vous pouvez venir quand il vous plaira, monsieur Jennings, a-t-il dit en se consolidant sur ses jambes. Vous me trouverez à l'ouvrage avec les personnes que je vais prendre pour m'aider. Je vous prie d'agréer mes remerciements respectueux pour les concessions que vous m'avez faites au sujet de la tenture et de l'aile cassée de Cupidon. Puis aussi pour m'avoir dégagé de toute responsabilité relativement aux épingles de tapis et au désordre de la chambre de M. Franklin. En tant que serviteur, je vous suis infiniment obligé. En tant qu'homme, je vous considère comme ayant la tête bourrée d'illusions, et je tiens votre expérience pour une tromperie et une plaisanterie. Mais ne craignez pas que mon devoir comme serviteur souffre de mes sentiments privés. Quelque lubie qui vous passe par la tête, vous serez obéi, monsieur. Je vous obéirai ponctuellement. Si le tout se termine par l'incendie de la maison, Dieu me damne, par exemple, si j'envoie chercher les pompiers, à moins que vous ne sonniez vous-même le tocsin ou ne m'en donniez l'ordre formel. Sur cette assurance donnée en guise d'adieu, il m'a salué et a quitté la chambre. « Croyez-vous que nous puissions compter sur lui ? » ai-je demandé. « Complètement, » a répondu M. Blake. « Quand nous entrerons dans la maison, vous verrez que toutes vos instructions auront été suivies de point en point. » 19 juin. Autre forme de protestation contre notre projet, cette fois de la part d'une dame. La poste du matin m'a apporté 2 lettres, l'une de Miss Verinda, qui consent de la façon la plus gracieuse à l'arrangement que j'ai soumis à son approbation. L'autre d'une Mrs. Merridew, la dame chez qui elle habite. Mrs. Merridew me présente ses compliments. Elle n'a pas la prétention de comprendre la portée scientifique du sujet que j'ai traité dans ma correspondance avec Miss Verinda. Au point de vue des convenances sociales, pourtant, elle se croit en droit de donner son opinion. « J'ignore sans doute, continue Mrs. Merridew, que Miss Verinda a à peine 19 ans. Or, permettre à une si jeune fille d'assister sans la protection d'un chaperon à une expérience médicale dans une maison toute remplie d'hommes est un oubli de convenance que Mrs. Merridew ne saurait vraiment autoriser. Si cette affaire doit se poursuivre, elle juge qu'il est de son devoir, quoi qu'il en coûte à ses habitudes et à ses goûts, d'accompagner Miss Verinda dans le Yorkshire. Dans ces circonstances, elle prend sur elle de m'engager à réfléchir de nouveau sur cette difficulté, puisque Miss Verinda refuse de se soumettre à aucune opinion autre que la mienne. Sa présence ne saurait vraiment être très nécessaire, et un mot de moi qui lui serait adressé me dégagerait, ainsi que Mrs. Merridew, d'une fâcheuse responsabilité. Traduite en bon anglais, toutes ces phrases polies signifient pour moi que Mrs. Merridew vit dans une frayeur mortelle de l'opinion du monde. Elle s'adresse malheureusement à la dernière personne qui ait quelque raison de se préoccuper du respect humain. Je n'irai donc pas à l'encontre des désirs de Miss Verinda, et je ne retarderai pas l'heure de la réconciliation entre deux jeunes gens qui s'aiment et n'ont vécu séparés que trop longtemps. Traduction en langage poliment banal, M. Jennings présente ses compliments à Mrs. Merridew et regrette de ne pouvoir intervenir davantage dans l'affaire. Les nouvelles de la santé de M. Blake restent les mêmes. Nous sommes convenus de ne pas déranger Betteridge aujourd'hui et de ne faire que demain notre première visite d'inspection au logis. 20 juin. M. Blake commence à souffrir de son incessante insomnie. Plus tôt les chambres seront remeublées et mieux ce sera. Pendant que nous nous rendions ce matin auprès de Betteridge, M. Blake m'a consulté avec une impatience nerveuse à propos d'une lettre du sergent Cuff qu'on lui a renvoyée de Londres et à laquelle il ne sait que répondre. Le sergent lui écrit d'Irlande. Il accuse réception de la carte et du message laissé par M. Blake à sa résidence près de Dorking et qui lui ont été transmis par sa femme de charge. Il annonce son retour comme devant avoir lieu dans une semaine au plus tard. Il désire fort savoir avant ce moment quelle raison M. Blake avait de vouloir lui parler relativement à la pierre de lune. Si M. Blake peut lui démontrer qu'il a commis quelque grave erreur dans le cours de l'instruction faite au sujet du vol mystérieux de l'année dernière, il regarde comme un devoir, et surtout après la générosité dont il a été l'objet de la part de Lady Verinda, de se mettre à la disposition de M. Blake. Mais s'il en est autrement, il lui demande la permission de ne pas quitter sa retraite où il vit au milieu des joies paisibles, de l'horticulture et des agréments de la campagne. Après la lecture de cette lettre, j'ai, sans hésitation, conseillé à M. Blake de communiquer au sergent tout ce qui s'est passé depuis son enquête et de le laisser tirer ses propres conclusions de l'exposé des faits. En y songeant de nouveau, j'ai aussi proposé à M. Blake d'inviter le sergent à assister à notre expérience dans le cas où il arriverait à temps en Angleterre pour se réunir à nous. Il serait un témoin important pour notre cause, et s'il était prouvé que j'avais tort de croire le diamant caché dans la chambre de M. Blake, son avis pourrait encore être fort utile lorsqu'il s'agirait de prendre de nouvelles mesures qui ne seraient plus de mon ressort. Cette dernière considération a paru influencer M. Blake, et il m'a promis de suivre mon conseil. Au moment où nous entrions dans le sentier qui conduit à la maison, le bruit des coups de marteau nous apprit que le travail des tapissiers était en bonne voie. M. Betteridge est venu nous trouver dans la première antichambre, accoutré pour l'occasion d'un bonnet de pêcheur en laine rouge et d'un tablier de serge verte. Aussitôt qu'il m'a aperçu, il a sorti carnet et crayon et s'est obstiné à prendre note de mes moindres observations. Au reste, de quelque côté que nous tournions les yeux, nous constations, conformément aux prévisions de M. Blake, que la besogne marchait, exécutée avec autant de célérité que d'intelligence. Mais il restait encore beaucoup à faire, tant dans le hall intérieur que dans la chambre de Miss Verinda. Il ne paraissait guère probable que la maison pût être prête avant la fin de la semaine. Après avoir félicité Betteridge de son activité, il persistait toujours à recueillir chaque parole de moi sur son carnet et à refuser toute attention à M. Blake. Après avoir, dis-je, fait compliment à Betteridge et lui avoir promis de revenir dans un jour ou deux, nous nous disposions à sortir par l'autre côté de la maison. Nous n'étions pas encore au bas de l'escalier quand Betteridge m'a arrêté devant la porte qui conduit à son logement particulier. « Pourrais-je vous dire deux mots en tête à tête ? » m'a-t-il demandé à voix basse. J'ai consenti, naturellement. M. Blake est allé m'attendre dans le jardin, et je suis entré chez Betteridge, présumant qu'il allait me demander de nouvelles concessions comme je lui en avais fait déjà au sujet de la tenture usée et de l'aile de Cupidon. À ma grande surprise, au lieu de cela, Betteridge, avec l'air d'un homme qui se prépare à une conversation confidentielle, a mis la main sur mon bras et m'a posé cette incompréhensible question. « Monsieur Jennings, connaissez-vous Robinson Crusoe ?» J'ai répondu que je m'en souvenais comme d'une de mes lectures d'enfance. « Vous ne l'avez jamais relu depuis ?» a demandé Betteridge. « Non, jamais. » Il a reculé de quelques pas et m'a considéré avec un mélange de compassion, de curiosité et de stupeur. Il n'a jamais relu Robinson Crusoe depuis son enfance, répétait Betteridge en lui-même, sans s'adresser à moi. Voyons un peu quel effet lui produira maintenant cet admirable livre. Il a ouvert un placard et en a tiré un livre usé à tous les coins et exhalant une forte odeur de vieux tabac. Après avoir trouvé le passage qu'il cherchait, il m'a fait signe d'approcher et toujours d'un ton mystérieux, « J'en reviens à ces manigances entre vous, le laudanum et M. Franklin, monsieur, s'est-il mis à dire. Pendant que les ouvriers sont dans la maison, mon devoir de serviteur a le pas sur mes convictions d'homme privé. Lorsque les ouvriers ont quitté leurs travaux, l'individualité reprend ses droits. Tout ceci est très bien. La nuit dernière, Monsieur Jennings, je songeais que votre entreprise médicale ne pourrait que très mal finir. Si j'avais obéi à mon inspiration intérieure, j'eusse enlevé tous les meubles de mes propres mains et renvoyé les ouvriers dès le lendemain matin. Je suis heureux d'avoir vu par moi-même, lui ai-je répondu, que vous avez su résister à cette voix intérieure. Résister n'est pas le mot, a-t-il repris. Il faut dire lutter à bras le corps. Je luttais, monsieur, entre l'ordre de ma conscience, qui m'entraînait d'un côté, et les ordres inscrits sur mon carnet, qui me poussaient en sens contraire. Ce combat intérieur dura jusqu'à ce que, sauf votre respect, je me sentisse inondé d'une sueur froide. Dans cette terrible perturbation de corps et d'esprit, à quel remède eus-je recours? À celui, monsieur, qui ne m'a jamais fait défaut pendant 30 années et plus. À ce livre. À ces mots, il a frappé violemment sur le volume, d'où s'est exhalé un parfum de vieux tabac plus entêtant que jamais. « Que trouvais-je ici ?» a continué Betteridge, dès que je l'ouvris. « Ce passage bien frappant, monsieur, page 178, ainsi qu'il suit. » D'après ces réflexions, je me fis une règle de conduite. Chaque fois que se présenterait à mon esprit de ces avertissements ou pressentiments qui me solliciteraient de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, je me promis de ne jamais résister à cette voix impérative. Aussi vrai que je vis, monsieur Jennings, voilà quelles furent les premières lignes qui frappèrent mes yeux, juste au même moment où je bravais l'avertissement de ma conscience. « Vous ne voyez là rien d'extraordinaire, monsieur ?»« J'y vois une coïncidence, rien de plus. »« Vous n'éprouvez aucune hésitation, monsieur Jennings, à poursuivre votre entreprise médicale ?»« Pas la moindre. » Betteridge m'a regardé fixement en silence. Il a refermé son livre, l'a serré d'un air calme, puis, se retournant, il m'a dévisagé de nouveau pour arriver à me dire du ton le plus solennel « Monsieur, il faut beaucoup pardonner à un homme qui n'a jamais relu Robinson Crusoe depuis son enfance. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Il m'a ouvert la porte avec une profonde révérence et m'a laissé libre de ma personne. J'allais au jardin retrouver M. Franklin Blake quand celui-ci, revenant à la maison, nous nous sommes rencontrés. « Vous n'avez pas besoin de me raconter ce qui s'est passé, » m'a-t-il dit. Betteridge a joué son va-tout. Il a fait une nouvelle découverte prophétique dans son livre favori. « Avez-vous au moins flatté sa manie la plus chère ?»« Non. Vous lui avez laissé voir que vous n'aviez pas foi en Robinson Crusoe ?»« Monsieur Jennings, vous êtes tombé au plus bas dans l'opinion de Betteridge. Dites ce que vous voudrez, agissez comme vous l'entendrez à l'avenir. » Vous verrez qu'il ne dépensera plus une parole pour vous. 21 juin. Pour aujourd'hui, je dois me borner à une courte note sur mon journal. Monsieur Blake a passé la nuit la plus mauvaise qu'il ait encore eue. À mon grand regret, j'ai été forcé de lui faire une ordonnance. Ses tempéraments impressionnables sont, par bonheur, les plus accessibles à l'influence des remèdes. Sinon, je craindrais qu'au jour donné, il fut hors d'état de supporter l'épreuve projetée. Quant à moi, après 2 jours de répit, j'ai souffert ce matin d'une attaque si rude que j'ai dû prendre la plus haute dose d'opium, c'est-à-dire 500 gouttes. 22 juin. Les choses prennent une meilleure tournure aujourd'hui. Monsieur Blake a été moins éprouvé par ses souffrances nerveuses et a pu dormir un peu cette nuit. Moi, ma drogue m'a produit l'effet d'un coup d'assommoir. Je ne dirai pas que je me suis réveillé ce matin, j'ai repris connaissance.